Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Des enseignants dans la rue, des écoles fermées aujourd'hui pour protester contre le projet de loi Blanquer dont l'objectif affiché est d'instaurer plus de justice sociale et d'élever le niveau général des élèves, mais dont la méthode est décriée. Si l'on en croit les derniers éléments fournis par les rapports de l'OCDE et études PISA, la France n'est pas si bon élève. Performance scolaire qui laisse à désirer, inégalités qui ne se réduisent pas. Comment d'autres pays ont-ils réussi à remonter dans les classements internationaux? Bonjour Nathalie Mons.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie à l'université Cergy-Pontoise, présidente du CNESCO, le Conseil national d'évaluation du système scolaire. Et justement, il est peut-être question de faire disparaître, dans le cadre de la loi Blanquer pour une école de la confiance, ce CNESCO, c'est ça?
C'est-à-dire que la loi, oui, en effet, supprime ce Conseil national d'évaluation du système scolaire. Mais le ministre souhaite poursuivre cette activité. C'est une évaluation indépendante qui est faite par des scientifiques. Hein. Je le souhaite également, puisque dans une démocratie, on a besoin de savoir quel est l'état réel de l'école. Mais à ce stade-là, je n'ai aucun élément précis écrit.
Bon, ceci posé, lorsqu'il est question de l'école, la France fait plus mal que les autres pays, que la plupart des autres pays en matière de reproduction des inégalités scolaires. C'est ça, Nathalie Mons?
Oui, alors c'est vrai que depuis le début des années 2000, on a eu ces grandes enquêtes internationales, des PISA de l'OCDE, puis d'autres enquêtes, qui nous montrent malheureusement à répétition que la France caracole vraiment en tête du palmarès des pays de l'OCDE en termes d'inégalités scolaires à l'école. Et ça se dégrade dans le temps. Quand on regarde depuis 2000 jusqu'au dernier résultats en 2015, on a une très nette dégradation du cas français, à la fois parce qu'on fait moins bien, mais surtout parce qu'à l'étranger, les autres pays ont vraiment pris à cœur cette lutte contre les inégalités sociales à l'école et ils ont mené dans le temps des politiques qui sont maintenant efficaces.
Alors qu'est-ce qui marche dans ce domaine-là, puisqu'on considère que c'est vraiment un mal français, Nathalie Mons, qu'est-ce qui peut permettre de réduire les inégalités scolaires et leur perpétuation?
Alors, je dirais que le socle, quand on regarde finalement le Conseil national d'évaluation du système scolaire, regardez les pays qui sont en tête de ces palmarès, des Japon, des Finlande, des Singapour, certains pays, d'autres pays nordiques, et ils ont évidemment des éléments qui sont communs. Le socle, en fait, c'est vraiment d'avoir une continuité dans les politiques scolaires. C'est-à-dire que c'est seulement lorsqu'on trace un même sillon, pendant plusieurs décennies, qu'on arrive à produire des éléments en termes de politique scolaire. Par exemple, la Finlande, qui arrive toujours en tête des palmarès, sa politique de formation des enseignants, elle a monté au début des années 80. Mmh. Et puis depuis, elle est toujours dans la continuité. Elle affine, elle met plus de recherches, etc. Et aujourd'hui, ils ont des enseignants formés à un très haut niveau. Donc ça, c'est la base.
D'accord, donc déjà, la continuité. Persister ensuite.
La continuité, ça va permettre du coup de dérouler des politiques qui sont faites de façon un peu systématique à l'étranger. Par exemple, quand on regarde le Japon, quand on regarde Singapour, on a une réforme, mais au-delà de l'annonce de la réforme, on annonce également tout un plan de mise en œuvre de ces politiques. On va former les enseignants, on va leur donner des matériaux pédagogiques, on va leur donner des évaluations pour voir si ça fonctionne bien après dans la classe. Donc il y a quelque chose de systématique parce que comme il y a une continuité, on peut s'inscrire dans le temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des politiques qu'on fait un peu à la va-vite, à la précipitation, en disant qu'après l'alternance, d'autres gens vont arriver et faire autre chose.
Bien sûr.
On se dit pendant 4-5 ans, ça a été le cas par exemple au Chili d'une grosse réforme sur l'évaluation des enseignants, et ben on a négocié avec les enseignants pendant 3-4 ans pour qu'il y ait un consensus sur cette réforme et que ça soit mis en place avec tous les outils. Voilà. Donc ça c'est très important pour qu'il y ait vraiment une attention dans la mise en œuvre. D'ailleurs c'est une des faiblesses la mise en œuvre. En France on a des idées, mais on a toujours du mal à ce que ça se concrétise.
Pourquoi? Qu'est-ce qui fait défaut dans la matière scolaire?
Souvent parce qu'on se précipite. Souvent parce que comme à chaque quinquennat, on a sa politique, on a l'impression finalement, le personnel politique a l'impression qu'il y a peu de temps et donc se précipite.
Apparemment, il n'a pas tort.
Construit. Non, parce qu'en fait, comme il n'y a pas de continuité, enfin tout ça est lié, comme il n'y a pas de consensus politique, comme il n'y a pas de continuité, il y a évidemment cette avancée. Et puis en France, il y a peu de soucis, je pense, historiquement, culturellement, sur la mise en œuvre des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on pense que finalement, parce qu'on décide à Paris, ça va se mettre en place sur le terrain, mais dans tous les domaines, pas seulement en éducation. Or, c'est plus compliqué que ça de changer l'école, vraiment.
Vous dites qu'il n'y a pas de continuité d'une politique à l'autre, ou en tout cas d'un gouvernement gouvernement à l'autre. Est-ce que ça signifie qu'en France, on considère plus que dans les autres pays qu'il y a, je vais le dire brutalement, des réformes de droite et des réformes de gauche en matière d'école?
Alors, je mettrai un petit bémol sur ce manque de continuité. Là, je trouve que depuis deux quinquennats, on voit quand même qu'il y a finalement des priorités qui s'affirment. Je pense par exemple aux primaires. C'est-à-dire que l'idée maintenant est vraiment installée dans le personnel politique que ce sont les premières étapes de la scolarité qui sont fondamentales.
Et là,
il faut pas
les
louper. Et on a raison. Ça, c'est vraiment un lien avec la recherche. Et on a investi dans le quinquennat précédent sur des dispositifs, plus de maîtres que de classes, mettre plus d'enseignants dans les classes. Et là, de nouveau, et à raison, Jean-Michel Blanquer met en place des CP dédoublés. Moins d'élèves dans les contextes qui sont les plus défavorables socialement. Et ça, encore, il a raison. Mais ceci dit, ça ne suffira pas. C'est-à-dire que quand vous êtes tout en haut du palmarès en termes d'inégalité sociale à l'école, il faut faire ce qu'on fait dans les autres pays. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un ensemble de politiques qui doivent être déployées aux primaires, au collège, pour aider les enseignants. Ça, c'est une autre caractéristique aussi des pays qui réussissent. Aider les enseignants à lutter, mais au quotidien, contre ces inégalités.
Mais alors, justement, on a pu lire que les conséquences en France des classes dédoublées, puisque ça a véritablement été l'une des réformes portées et largement utilisées par le gouvernement pour dire qu'il y avait un tournant en la matière, eh bien, cette réforme ne donnait pas tous les résultats escomptés, Nathalie Mons?
Pour l'instant, les évaluations ne sont pas complètement publiées par le ministère. Et en effet, durant les premiers temps, durant ces premières années, on a pour l'instant un impact faible. Alors, il va falloir chercher pourquoi. Peut-être que c'est parce qu'il faut faire davantage de formation continue.
Donc, on a quand même une première impression, une première évaluation. L'impact est faible.
Oui, l'impact est faible au regard de ce qu'on attendait, parce que c'est une politique qui coûte très cher, donc on attendait un impact très élevé.
Dernière question, Nathalie Mons, il y a aussi une incidence de la valorisation du métier d'enseignant, des salaires qui sont particulièrement bas en France lorsqu'on les compare à ce qui est pratiqué ailleurs. Est-ce que ça ne signifie pas qu'on pourrait aussi utiliser ce levier-là pour faire en sorte que l'école soit plus efficace en France, non ?
C'est-à-dire que les salaires sont dans la moyenne. Ce qui pêche, c'est le début, c'est l'entrée dans la carrière en France. Mais d'un tout point de vue, là encore, c'est vraiment aussi une caractéristique.
J'avais lu, par exemple, que les salaires étaient 30% supérieurs en Allemagne.
Non, mais c'est en début. C'est surtout en début de carrière. Après, on rattrape les niveaux de l'OCDE et les niveaux européens. Par contre, on doit, et ça c'est aussi une caractéristique des pays qui fonctionnent bien, c'est de porter les débuts de la carrière des enseignants. Alors, en termes de salaire, mais pas que. C'est-à-dire que ailleurs, on pratique par exemple du mentorat, c'est-à-dire que on a des enseignants plus expérimentés qui ont des heures spécialement dédiées à l'accompagnement de leurs collègues jeunes quand ils arrivent dans les établissements. On a beaucoup de formations continues aussi pour ces jeunes. Voilà, donc il faut vraiment miser aussi sur ces éléments-là.
Merci Nathalie Mons. Je rappelle que vous êtes professeure de sociologie à l'université de Cergy-Pontoise et présidente du CNESCO, le Conseil national d'évaluation du système scolaire. Il est 7h21 sur France Culture.